Je vous invite à ouvrir vos Bibles, moi aussi, dans l'évangile de Luc. On poursuit notre mini-série dans l'évangile de Luc à la page 660. Page 660, évangile de Luc. Mais avant, une introduction. Alors, Jacques Chirac avait promis qu'avant la fin de son mandat, il se baignerait dans la Seine à Paris. Et ceci pour nous montrer ses efforts courageux pour dépolluer le fleuve. Beaucoup d'eau est passée sous les ponts de Paris sans qu'il ne le fasse jamais. Alors, les promesses des hommes, des politiques, mais... plus généralement des hommes, n'engagent, dit-on, que ceux qui les croient. Et notre expérience montre que de nombreuses promesses ne sont pas tenues par nos politiques comme par nous-mêmes. Alors pourquoi ? Alors parfois parce que ces promesses sont faites cyniquement, sans volonté aucune de les tenir, seulement pour les hommes politiques dans le but d'être élus, et pour nous d'obtenir une faveur, l'approbation des uns ou des autres. Mais parfois, ces promesses sont faites de bonne foi. C'est alors la capacité à les tenir qui fait défaut. Et n'en déplaise aux hommes, ils doivent reconnaître que beaucoup de choses, tellement de choses, leur sont impossibles. L'essentiel, à savoir le salut, est impossible à l'homme. Alors pour notre Dieu, pas de cynisme, pas de mensonge, mais en revanche, une parfaite souveraineté sur toute chose. Dieu, contrairement à nous, veut et Dieu peut tenir ses promesses. Alors ce matin, nous allons contempler et nous réjouir, je l'espère de tout cœur, avec Marie, de l'accomplissement de la promesse. Avec un grand L, avec un grand P, la promesse que Dieu a faite aux hommes et qui court dans tout l'Ancien Testament, du tout début, Genèse, le chapitre 3, lorsque Dieu annonce au serpent, à Satan, que la descendance de la femme lui écrasera la tête, le vaincra. À la toute fin de cet Ancien Testament, on voit que dans le dernier chapitre, du dernier prophète, Malachie, on voit que le prophète évoque, alors c'est un peu mystérieux, tout à la fois Dieu lui-même qui viendrait nous visiter, et en même temps une personne distincte de lui, un mystérieux messager de l'Alliance qui va entrer dans son temple pour le purifier. Vous pourrez relire cela dans Malachie, le chapitre 3, les trois premiers versets. Cette promesse donc, cette promesse de nous donner un sauveur, martelée dans l'Ancien Testament, est en train de se réaliser. Dieu tient sa promesse. Il est fidèle. Alors on va lire donc à partir du verset 26. Luc 1, le verset 26. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie. » Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voilà que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ? L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la toute-puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle que l'on appelait la stérile, est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ?» En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront, « Heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint. » Et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham, et de sa descendance pour toujours. Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Alors on va voir cette fidélité infaillible de Dieu, cette parfaite souveraineté, à travers l'annonce de l'ange Gabriel, confirmée par le plus grand des prophètes, Jean-Baptiste. Et on va voir que cette annonce confirmée ne peut que susciter la joie et la louange de Marie. Oui, Dieu tient ses promesses. Il tient sa promesse. Merci à Manu. Alors l'annonce de l'ange, pour commencer, les versets 26 à 38. Au début de l'évangile de Luc, on voit que l'ange Gabriel ne chôme pas. Il a bien du travail. Et on peut être certain qu'il a dû être heureux, si heureux de l'accomplir, d'annoncer cette fameuse promesse que Dieu a faite aux hommes. Alors, un message délivré à Zacharie, c'est ce que nous avons vu dimanche dernier avec Samuel. Et puis, on le voit ici, quelques mois après, un nouveau message à délivrer cette fois-ci à Marie. Alors, on ne sait pas si c'est lui qui s'adresse au berger, on verra cet épisode un peu plus tard. On ne sait pas si c'est lui qui s'adresse à Joseph, mais en tout cas, l'armée céleste, on le voit, est au travail. Ce qui nous montre qu'il est en train de se passer quelque chose de grand, quelque chose d'unique. Dieu, par l'intermédiaire de ses anges, a un message d'une grande importance à adresser aux hommes. Alors on verra successivement le destinataire de ce message, la destinataire, son contenu et son accueil. Alors la destinataire, Marie, que retenir à son sujet? 3 choses. Marie, on le voit, est fiancée de descendance royale et de conditions modestes. Alors fiancée d'abord, elle est engagée avec un homme et c'est du sérieux. Les fiançailles à cette époque en Israël étaient l'équivalent du mariage d'aujourd'hui, mais sans vie commune, sans relation intime. C'est en tout cas un lien très fort et on comprend déjà que l'annonce qui va être faite à Marie risque de briser ce lien et avec lui la réputation de la jeune fille, peut-être sa vie entière. La royauté ensuite, verset 27. Alors les commentateurs ne sont pas tous d'accord, mais au moins ils s'accordent sur le fait que Marie est étroitement liée à la descendance du roi David, le grand roi d'Israël. Beaucoup pensent qu'elle, Marie, comme Joseph, est issue de ce roi. D'autres voient son lien avec la famille davidique par son alliance avec Joseph. Mais qu'importe. Ce qu'il faut retenir, c'est que Marie est liée étroitement à cette descendance glorieuse du roi David, et le fils qu'elle aura le sera également par conséquent. La promesse que Dieu avait faite à David de lui donner un descendant qui régnera est en train de s'accomplir. Alors enfin, la condition modeste. Oui, Marie est de descendance royale, mais cela fait maintenant bien longtemps, plus de 500 ans, que les rois issus de David ne règnent plus sur rien. Marie, avant d'être de la famille du roi David, est perçue par tous comme une jeune femme modeste. Trois états qui expriment la faiblesse, la vulnérabilité dans une société qui valorise la sagesse des anciens, des aînés, qui méprise assez largement les femmes et fait peu de cas des plus fragiles. Marie n'est pas une princesse issue des grandes familles de Jérusalem. C'est une femme toute simple qui va bientôt accoucher, on sait où, dans une étable. Et c'est à elle, par l'intermédiaire de son ange, que Dieu s'adresse. C'est sur elle qu'il porte son regard. Alors après le destinataire, le contenu du message. Que dit l'ange à Marie ? Alors, on le voit de façon générale, sa présentation de l'enfant à venir est glorieuse. Hein, quelle maman ne serait pas heureuse d'avoir une telle annonce concernant la venue de son enfant ? Alors, trois éléments se dégagent. Marie va avoir un fils qui va sauver, un fils qui va régner et un fils qui vient de Dieu. Alors un fils sauveur tout d'abord. Ce fils portera, nous dit l'ange, le nom de Jésus. Alors à notre époque, on donne des noms parce qu'en général, on les trouve jolis, originaux, sans se soucier d'abord de sa signification. Mais à l'époque de Marie, c'était tout le contraire. C'était la signification qui importait. L'ange, en donnant le nom de l'enfant, révèle également sa mission, son identité profonde. Alors le nom de Jésus veut dire Dieu sauve, Dieu secours. Ce fils qu'elle attend va, alors elle ne sait pas tout encore, elle n'a pas tout compris, mais elle sait qu'il va être impliqué, d'une façon ou d'une autre, dans le plan divin de salut pour les Israélites, mais au-delà, pour les hommes. Marie, comme beaucoup d'Israélites de l'époque, connaissait les textes bibliques. Elle aussi attendait ce fameux Messie, annoncé par les prophètes qui devaient délivrer son peuple. Quand l'ange lui annonce que son fils va venir pour délivrer, pour secourir, une petite lumière s'est sûrement allumée dans la tête de Marie. Est-ce que c'est moi qui porterai le Messie ? D'autant que l'ange poursuit en insistant sur la gloire qui va accompagner cet enfant. Une gloire, on le voit, royale. Marie va avoir un fils qui va régner. Alors ce fils est un roi et on le voit bien différent des autres rois, car un roi éternel. Et là, plus de doute, c'est bien le Messie promis. Voici ce que Dieu avait promis, on revient à lui, au roi David, 1000 ans avant l'annonce de l'ange à Marie. Alors on trouve cela dans le deuxième livre de Samuel, vous pouvez simplement écouter. Alors Dieu s'adresse au roi David. Il s'adresse au roi David par l'intermédiaire d'un de ses prophètes, Nathan, et voilà ce qu'il dit au roi David. « Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. » Et puis on lit la suite et on se dit c'est probablement le fils de David, Salomon. Mais voilà comment Nathan finit. Il dit au roi David, « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » Et là, il ne s'agit pas de Salomon, d'un autre. Alors ça y est, ce roi promis depuis la révolte des hommes contre Dieu, ce bon roi qui vient délivrer son peuple, qui vient remettre de l'ordre dans son royaume, ce roi est enfin là, dans le ventre de cette jeune femme modeste. Dieu tient sa promesse. Mais le plus incroyable est encore à venir. Suite à la demande d'explication légitime de Marie au verset 34, mais comment vais-je être enceinte puisque je n'ai pas de relation avec un homme, l'ange lui révèle que ce Messie va être bien plus différent, bien plus autre que tout ce que les hommes auraient pu imaginer. Cet enfant va venir de Dieu. Alors d'une certaine façon, c'est vrai qu'on peut dire que tous les enfants viennent de Dieu, c'est bien lui qui crée la vie, qui la soutient. On a vu dimanche dernier que c'est lui, notre Dieu, qui donne à Élisabeth, stérile et âgée, un fils contre toute attente. La naissance de Jean-Baptiste, c'est vrai, comme l'a rappelé Samuel, est miraculeuse, mais elle reste dans les limites de l'ordre naturel établi par Dieu. Jean-Baptiste a pour mère une femme et pour père un homme. Avec Jésus, on le voit ici, il y a une rupture radicale avec notre humanité en Adam. Je relis le verset 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. » Avec la naissance de Jésus, nous avons de la part de Dieu un acte créateur. Nous avons la création d'une nouvelle humanité. Jésus, on le voit dans certaines épîtres du Nouveau Testament, est présenté comme le nouvel Adam, un vrai homme, mais sans le péché. Alors c'est vrai que l'incarnation, le fait que Dieu, dans la personne du Fils, devienne un vrai homme, nous dépasse, c'est mystérieux, et ça pourrait nous amener à croire ou à dire des bêtises. Il ne s'agit pas de dire ici que le Père crée le Fils, puisque Dieu le Fils, au même titre que le Père ou que l'Esprit, est pleinement Dieu, sans commencement ni fin. Et on voit déjà que le Fils, avec l'Esprit, avec le Père, est à l'œuvre dans la création. Le Fils a toujours été. Il est pleinement Dieu. Le Fils a toujours été, mais pas l'incarnation. L'homme Jésus vient de Dieu, le Père, et c'est la raison pour laquelle, annonce l'ange, il sera appelé Fils de Dieu. Alors devant une telle annonce, voilà, la réaction est souvent l'incrédulité. On l'a vu avec Zacharie, avec Joseph dans l'évangile de Matthieu, avant que l'ange ne le visite. Ce n'est pas possible. Mais je vous invite à être cohérent. Si nous croyons bien en Dieu, si nous croyons bien qu'il est le créateur de toutes choses, de la sexualité, de la vie et de ce processus qui lui permet de se perpétuer, au nom de quoi interdirions-nous à Dieu de s'en affranchir? L'ange le déclare, rien n'est impossible à Dieu. Alors, le croyons-nous? C'est une question là qui est une question vitale. La naissance virginale de Marie est capitale avec des conséquences importantes exposées par un commentateur. Je vous en donne quelques-unes. En introduction, nous avons rappelé que beaucoup de choses sont impossibles à l'homme, à commencer par se sauver lui-même. La naissance virginale de Jésus nous montre que le salut vient toujours et vient exclusivement de Dieu. C'est Dieu seul qui sauve. Et il le fait ici en nous donnant son Fils. Autre conséquence, après un long temps de séparation entre l'homme et Dieu suite à notre rébellion contre lui, la naissance virginale de Jésus rend enfin possible l'union de l'humanité et de la divinité. L'union de la pleine humanité, de la pleine divinité de Jésus. Et accroché à lui, maintenant, nous nous savons en paix, unis à notre bon Père Céleste, parce qu'unis à Jésus. Si nous croyons que Jésus n'est qu'un homme issu de l'union d'une femme et d'un homme, marqué donc par le péché, notre foi n'a plus de raison d'être. Et notre problème, celui de notre culpabilité et de notre jugement à venir, reste entier. Mais si nous croyons que Jésus est bien le Fils de Dieu, alors nous pourrons déclarer avec Marie que Dieu est notre Sauveur et entrer dans la joie avec elle. Alors après le contenu du message, un enfant qui va venir sauver, qui va régner et qui vient de Dieu, on va passer à l'accueil de ce message. Alors souvent, une mauvaise théologie provoque en réaction une autre mauvaise théologie. Nos amis catholiques voient en Marie la mère de Dieu, la reine du ciel, une intermédiaire privilégiée entre Dieu, enfin notamment Dieu le Fils, et les hommes. Aucune trace de tout cela dans la Bible. Et en réaction, certains croyants ont totalement évacué le personnage de Marie, ce qui ne devrait pas être non plus au regard de ce texte. Alors c'est vrai, le texte insiste d'abord sur la grâce que Dieu a faite à Marie. Marie est au bénéfice de la bienveillance de Dieu. Elle a été choisie par lui, elle, on le rappelle, une jeune femme modeste pour porter le Fils de Dieu. C'est ce que martèle l'ange au verset 30, au verset 28, au verset 30. Et c'est ce que répète Élisabeth au verset 42. Tu es bénie, Marie. Bénie de Dieu. Ceci étant, l'attitude de Marie est remarquable et marquée par l'humilité et la foi. C'est le verset 38. Alors la foi tout d'abord, suite à l'annonce de l'ange, au signe qu'il lui laisse, celui de la grossesse miraculeuse d'Élisabeth. Et suite enfin à sa dernière affirmation, rien n'est impossible à Dieu. Marie croit. Elle croit en effet que rien n'est impossible à Dieu et qu'elle va être enceinte sans l'intervention d'un homme. Elle croit à l'incroyable parce qu'elle croit Dieu. Elle croit les promesses de Dieu, la parole de Dieu. Elle croit en effet que Dieu est fidèle, qu'il veut et qu'il peut lui tenir ses promesses. Humilité ensuite, Marie se présente humblement comme la servante du Seigneur. Elle accepte, malgré certainement encore des questions et des craintes bien légitimes, elle accepte humblement d'entrer dans le plan de Dieu. Et c'est vrai que beaucoup de questions restent à ce stade en suspens pour elle. Que va dire mon fiancé? Que va dire ma famille? À une époque où l'immoralité sexuelle était prise au sérieux, une grossesse en dehors du mariage pouvait avoir des conséquences dramatiques. Si Joseph la rejetait, elle serait condamnée au célibat, à la honte. Si sa famille, son père notamment, la renvoyait, ce serait, elle le sait, pour elle une vie de très grande précarité. Mais malgré cela, elle plie, on le voit ici, le genou, verset 38, devant son Dieu et accepte humblement sa volonté pour sa vie. Elle portera le Fils de Dieu. Alors on a vu l'annonce de l'ange, on va voir maintenant que cette annonce est confirmée par le ministère de Jean-Baptiste. Alors pour fortifier Marie dans sa foi, on vient de le voir, ça ne va pas être simple. Après l'ange, Dieu lui envoie, d'une certaine façon, Jean-Baptiste. Alors on verra successivement le ministère de Jean et le résultat de ce ministère. Alors d'abord le ministère. Dimanche dernier, avec Samuel, on a vu qu'il va être un grand prophète. Jésus, plus tard dans l'évangile de Luc, Jésus va même dire qu'il est le plus grand de tous. Alors, il va être le plus grand, non à cause de ses qualités propres, mais du fait de sa proximité avec Jésus. Jean le Baptiste va exercer son ministère en même temps que Jésus. Et quel ministère ? Un ministère qui consiste à préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. C'est la fin du verset 17 dans la section précédente. Samuel, dimanche dernier, a insisté sur ce verset. Jean-Baptiste doit préparer un peuple bien disposé pour le Seigneur. Au verset 15 de la section précédente aussi, L'ange annonce à Zacharie que l'enfant sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Par l'action de l'Esprit, donc, Jean commence à se mettre au travail, à remplir son ministère. Il est en train là de dire à sa mère, « Hé, maman, voici celle qui porte le Messie, et voici le Messie. Voici ton Messie, ton Seigneur. Accueille-le comme il se doit, avec foi, dans la reconnaissance et la joie. » Il prépare sa mère à être bien disposée pour le Seigneur. Jean, on le voit dès le ventre de sa mère, est à l'œuvre. Et les résultats sont là par l'action conjointe de la réaction de Jean. Hein. Il a remué brusquement, nous dit Élisabeth. Par l'action aussi, bien sûr, de l'Esprit. On voit que l'Esprit descend sur Élisabeth. Et des Écritures qu'Élisabeth devait elle aussi bien connaître. Eh bien, elle est disposée, on le voit, à recevoir Jésus, à recevoir le Seigneur. Elle est la première Israélite, après Marie, à reconnaître le bébé que porte Marie pour ce qu'il est, un enfant béni de Dieu. Plus encore, on le voit, elle le reconnaît comme son Seigneur, verset 43. Alors que faut-il comprendre par Seigneur dans la bouche d'Élisabeth ? Dans le passage précédent, il s'agissait assez nettement de Dieu lui-même. Mais dans d'autres passages de la Bible qu'Élisabeth, encore une fois, devait connaître, ce Seigneur, tout en étant étroitement lié à Dieu, semble en être distinct. C'est par exemple le cas dans le psaume 110, et on retourne un peu quelques instants avec le roi David. Le roi David, quand il écrit ce psaume, écrit « L'Éternel », donc l'Éternel c'est bien Dieu, Yahvé, l'Éternel, Dieu, « déclare à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. » Dans ce psaume, le roi David est en train de dire que Dieu s'adresse à une personne que David lui-même reconnaît comme son Seigneur. Une personne donc bien distincte de Dieu, mais on le voit étroitement liée à lui. Il s'assoit à la droite de Dieu. Une personne bien supérieure au roi David lui-même. Et d'une certaine façon, ici, c'est ce que fait Élisabeth. Elle reconnaît que Marie porte en elle un enfant bien particulier qui vient de Dieu, mais distinct de lui, qui vient de la part de Dieu pour réaliser les projets de Dieu, des projets de délivrance pour son peuple, et qui va avoir une proximité unique, troublante avec Dieu, et qui, à ce titre, mérite tout l'honneur et toute la gloire. Alors l'annonce de l'ange, confirmée par Jean le Baptiste, ne peut, on le voit ici, que susciter la joie, la louange, la reconnaissance de Marie. Et nous terminerons sur ces versets 46 à 55. Alors qu'est-ce qui fait la joie de Marie ? Qu'est-ce qu'elle rappelle dans ce chant, dans ce cantique ? Elle reconnaît que Dieu est son sauveur, que Dieu fait justice, et enfin, que Dieu tient parole. Alors Dieu est son sauveur, les versets 46-49. « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. » Il est frappant de voir que le début de ce cantique est très personnel. Elle dit bien « mon sauveur ». Et en passage, on voit que Marie a tout comme nous, elle aussi, besoin d'un sauveur. Elle continue au verset 48 et 49. « En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. » Marie se réjouit de ce que le Seigneur a fait pour elle de façon toute personnelle. Elle réalise à quel point Dieu est bon pour elle, à quel point il veut entrer dans une relation personnelle avec elle, à quel point il est son sauveur, le sauveur personnel dont elle avait tant besoin. On perçoit là le Dieu personnel qui pose le regard sur chacun de nous, qui veut avoir une relation personnelle avec nous, être notre sauveur. Déclarer que nous croyons que Jésus est le sauveur des hommes, de l'humanité, d'une certaine façon n'est pas suffisant. Dieu veut nous entendre dire, en nous tournant vers lui dans la reconnaissance, dans la confiance. Il veut nous entendre dire « Mon Sauveur ». Alors après, Dieu le Sauveur, Dieu le Juste, versets 50 à 53, la suite du cantique a des accents plus universels. Marie proclame que le privilège qui est le sien, le salut qu'elle a reçu de Dieu, est pour tous ceux qui craignent Dieu, qui s'en remettent à lui humblement comme elle l'a fait elle-même. Dans ces versets, Marie insiste sur la justice de Dieu, sur ce Dieu qui renverse la hiérarchie des hommes. Elle a sûrement conscience que c'est précisément ce que Dieu est en train de faire avec elle. Il a choisi une jeune femme modeste, inconnue, pour réaliser ses plans. Et bien malgré elle, il en a ainsi fait peut-être la femme la plus connue au monde. La fin du verset 48, on le voit, c'est largement accompli. Dieu, en effet, est un Dieu juste qui abaisse les orgueilleux et qui élève ceux qui sont humbles de cœur. Et puis enfin, Dieu est un Dieu fidèle qui tient ses promesses, les versets 54 à 55. Et on revient à notre introduction. Oui, contrairement à nous, Dieu est fidèle et les promesses qu'il a faites, même celles qu'il a faites il y a très longtemps, les promesses faites à Abraham, il les a tenues en son temps. Oui, en effet, toutes les familles de la terre, c'est ce que Dieu avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à travers ce descendant d'Abraham, à travers Jésus, le Messie. Dieu est fidèle, il veut, il peut lui tenir ses promesses. Il veut, il peut tenir sa promesse, celle de nous sauver par son Fils, Jésus-Christ. Le ton de ce passage est résolument glorieux et joyeux. Tout le monde est heureux. Et pour cause, le Sauveur du monde arrive. Jean-Baptiste, d'une certaine manière, fait des galipettes de joie dans le ventre de sa maman. Élisabeth se réjouit avec et pour Marie. Et Marie chante, on le voit, de joie. Elle chante la bonté, la grandeur de son Dieu. Donc, la joie, c'est un peu la ligne de mélodique dominante. Alors, c'est bientôt Noël. C'est un temps considéré comme un temps heureux, comme privilégié, où on se retrouve en famille, on se fait des cadeaux. Mais ce n'est pas pour autant un temps heureux pour tous, c'est loin de là. Alors j'aimerais m'adresser d'abord à ceux pour qui la vie n'est pas simple. Et d'une certaine manière, oui, la vie n'est pas simple pour chacun d'entre nous. Bon, on a beaucoup de bonnes raisons de rester dans la tristesse, de douter. Ce n'est pas le repas de Noël qui changera grand-chose. Alors un peu plus loin, dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, au verset 19, on verra ça plus tard, on lit que Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Est-ce que je peux vous inviter à méditer tout ce que nous avons vu ce matin, à le garder dans notre cœur finalement, à le croire? Est-ce que je crois que, en effet, rien n'est impossible à Dieu? Est-ce que je crois que Dieu est mon Sauveur? Est-ce que je crois que Dieu le Fils est devenu un vrai homme, comme nous, à l'exception du péché, en la personne de Jésus, pour vivre parmi nous et pour mourir à la croix pour nous? Si je crois cela, alors malgré les peines qui sont les miennes, je vais entrer dans la joie de Jean-Baptiste, d'Élisabeth, de Marie. Et puis à ceux pour qui la vie se passe pour le moment plutôt bien, hein, j'aimerais leur dire, réjouissez-vous, réjouissons-nous comme Marie, pour la bonne raison. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est mon Sauveur. Et cela pour sa gloire. On va prier. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, on veut en effet te louer, te bénir, comme Marie, comme Élisabeth, comme Jean-Baptiste. Parce que tu es un Dieu fidèle qui tient sa promesse. celle de nous donner un sauveur. Tu l'as fait en Jésus. Et Seigneur, aide-nous vraiment à reconnaître ce petit enfant comme le roi qui va régner éternellement, le roi qui va sauver, et à nous réfugier en lui, Seigneur, à faire vraiment de lui le trésor de nos vies. Amen.